On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Allora, signori, abbiamo verdure alla griglia, melanzane, zucchine, carote, pomodoro e finocchio. I fagioli zolfini, che sono una tipologia di fagioli, spinaci in crema di besciamella. Dopodiché abbiamo le patate arrosto. Poi vi abbiamo portato una bistecca e una chianina, quindi una carne tipica fiorentina. E si tratta della razza in vitellone bianco e questo.
On a le vraie recette toscane, rien d'autre che la vraie toscane.
Buongiorno a tutti e benvenuti al tavolo di On va déguster. Vous savez à quel point nous aimons l'Italie dans l'émission gastronomique de France Inter, mais nous n'avions jamais évoqué la cuisine d'une des régions les plus touristiques de la botte, la Toscane. Florence, la tour de Pise, le village de Sienne, les oliveraies et les vignes de Chianti. De la Toscane, on semble mieux connaître les villes, les monuments, les paysages que les recettes de cuisine. On va essayer justement de se rattraper. On vous propose un voyage jusqu'à midi dans la Cucina Toscana avec l'experte italienne qui nous guide régulièrement dans les terroirs transalpins, Alessandra Pierini. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ça va?
Benissimo, grazie.
On est ravis de vous retrouver au micro d'On va déguster. Les auditeurs vous connaissent bien, Alessandra. Vous êtes à la tête de l'épicerie Rap et vous nous avez apporté, mais également cuisiné, une foultitude de produits et de plats. Il y en a partout. Ça sent notamment un très bon plat que je devine être en cocotte.
Voilà, on verra tout à l'heure.
Merci beaucoup. Dans les fauteuils des chroniqueurs, Elvira Masson et Jérôme Gagnès. Bonjour les amis.
Bonjour à tutti.
Ça va?
Ça va et vous?
Elvira.
Je vous parle d'une céréale antique.
Ah, céréale antique. On va essayer de réfléchir un peu. Fin de l'énigme dans le courant de cette émission. Jérôme?
Un fiasco.
Ah, comme ah oui, un fiasco,
comme
carrément.
Oui, comme d'habitude,
vous allez faire un fiasco.
Une équipe qui gagne.
Voilà, très bien. Et ben un fiasco au menu de la chronique de Jérôme. L'émission est réalisée par Laurent Thomas, avec Elisabeth Collet à la technique, Nadia Chougui à la préparation. Nos recettes de Toscane, nos infos pratiques, le podcast de l'émission sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, On va déguster avec François-Régis Gaudry.
Aujourd'hui, je fais un gros poutou à nos amis véganes. Et je leur souffle tendrement à l'oreille une super adresse. Mais pas réservée aux véganes, c'est tellement bon que les omnivores comme moi en redemandent. Ça se passe dans le quartier Saint-Lazare, 8e arrondissement de Paris, et ça s'appelle Sonat. Sonat comme So Natural. Et pour cause, c'est une cantine 100% bio. Le restaurant est d'ailleurs certifié AB, ce qui est assez rare. C'est donc végétalien, autrement dit, sans aucune protéine d'origine animale. La fondatrice s'appelle Zora Levaché, c'est une ancienne architecte qui a ouvert, est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques années, une première adresse Sonat dans le 9e arrondissement, à l'ombre de l'église Notre-Dame de Lorette, c'est pas si loin de chez vous et de votre épicerie, Alessandra?
Ça me parle beaucoup, d'ailleurs, on y a mangé dans la semaine, même on prend très souvent emporté, oui, ça change un petit peu de la cuisine italienne,
c'est
parfois
ça.
C'est un bon complément.
Et Elvira, il y a aussi ses habitudes.
Ouais, je suis pas mal allée à une époque. C'est vrai que c'est non seulement délicieux, sain et d'une gourmandise totale.
Absolument.
N'en déplaise à Jérôme Gagnès.
Oui,
je me regarde un drôle d'air.
Il commence à faire la grimace dès qu'il entend vegan. Sonat ouvre, figurez-vous, Jérôme, je vais vous y emmener, vous allez voir.
Ouais,
une deuxième adresse, rue Laborde, juste à côté de la gare Saint-Lazare. Cette cantine fraîche et moderne propose ce qu'on appelle des Buddha Bowls. Des Buddha Bowls, oui. Alors comme ça, Buddha Bowl, ça fait un peu nourriture de foodista instagrammeuse qui pratique le yoga et qui passe ses vacances à LA. Ok, on est bien d'accord.
Des graines de chia, non?
Et pourtant, si vous voyez les cadres en costard-cravate qui se régalent au déjeuner avec ce grand bol rempli de graines, de céréales, de légumes secs et frais, d'épices, d'herbes fraîches, moi, je fonds pour le rocket and roll. Le rocket and roll, c'est un bol blindé de couleurs et de vitamines. Et franchement, je vous assure, je me suis régalé, j'y étais il y a deux jours, un équilibre parfait entre petite épeautre noisette, haricots azuki aux épices douces, champignons au citron, carottes glacées au miso blanc, potimarron fumé, pétales de topinambour, chips de lotus, le tout lié par un pesto de roquette, mais démoniaque. Il y a plusieurs clients qui veulent absolument le secret de cette recette. Alors je sais qu'il y a de la roquette, des graines de tournesol, de la levure de bière, de l'ail, de l'huile d'olive. C'est vraiment.
Ils sont très forts en assaisonnement,
ils sont
en fait.
Très,
c'est ça,
très bon.
Bah, oui, il faut bien que ça ait du goût quand même.
Jérôme, La cuisine végane était punitive, la voici jouissive. Allez-y, vous m'en direz des nouvelles. L'addition est très accessible, un bowl copieux et nourrissant qui fait un repas, c'est 10 euros tout seul. Et si on veut un dessert, c'est 12 euros. Sonate, 8 rue Laborde, Paris 8e, c'est ouvert du lundi au vendredi au déjeuner. Et passez un petit bonjour à Zora et toute l'équipe de Sonate, de la part dont on va déguster. Jérôme, un événement bachique à nous signaler rapidement.
Oui, il n'est pas végan celui-là, c'est la Saint-Vincent tournante en Bourgogne. Cette année, elle est à Vézelay, donc la Saint-Vincent, c'est la fête des vignerons. Ça tourne dans un village différent tous les ans. Cette année, en 2019, ce sera les 26 et 27 janvier à Vézelay, dans le sud de Lyon. Sublimissime village, évidemment, avec une basilique exceptionnelle. C'est un très bel événement qui est ouvert à tous. Vous allez découvrir beaucoup de vins de Bourgogne. Vous allez découvrir le travail des vignerons bourguignons. Il faut vraiment y aller. Et ce, d'autant plus que depuis très peu de temps, cette année, je crois, oui, c'est cette année, Vézelay a obtenu sa propre AOC. Aujourd'hui, c'est une AOC village Vézelay. Il y a d'admirables vins. Précipitez-vous les 26 et 27 janvier prochain à Vézelay. Toutes les infos seront sur notre site, évidemment.
Merci beaucoup, Jérôme. On passe à la cuisine légèrement carnée de Toscane. Juste après, Italian Swing Sister avec un titre choisi par Giubacca.
Camminando sotto la pioggia.
Se piove vaghi per la città, senza nessun pensiero, l'acqua nelle scarpe t'entra già. Cosa vorresti dire? Cosa vorresti far? Si senti già le suole far cip già. Che ci vuoi fare se nel taschino fruga di frugo no, non puoi trovare il becco di un quattrino. Libero te ne vai, a piedi mai non hai. Cip, cip. Le gocce cadono ma che fa? Se ci bagniamo un po' domani il sole ci potrà asciugare. Non ti rovini il frac, le scarpe fan cip cip. Seguiamo la strada del destino. Rababurue. Cadono ma che fa? Se ci bagniamo un po', domani il sole ci potrà asciugare. Non ti rovini il frac, le scarpe fan cip ciap. Seguiamo la strada del destino.
Où sommes-nous, Bernardo?
Nous sommes juste en face de la trattoria Bourde. Pas dans le centre-ville de Florence, donc une partie très populaire de Florence où on ne voit aucun touriste, mais on voit plein de travailleurs du coin.
C'est une trattoria traditionnelle.
Oui, ça fait la quatrième génération que la famille Gori gère cette trattoria. Ils font que des recettes traditionnelles, sont ouverts qu'à déjeuner, donc un service pour les personnes du quartier.
On commence notre voyage toscan dans la capitale, Florence. Mais alors pas Florence de la carte postale, etc. On est plutôt à deux pas de l'aéroport, dans une zone commerciale pas très attirante, devant cette trattoria fondée en 1901 tout de même. Trattoria d'Abourde, et ça vous rappelle sûrement des souvenirs là.
Oui, absolument. Alexandra. Et 30 minutes après être sorti de l'aéroport, on y était déjà.
C'est incroyable. Et nous étions en compagnie de Bernardo Conticelli. C'est un gourmet toscan spécialisé notamment dans les vins qu'on entendait faire la traduction. Alors quand on entre, c'est un bar tabac avec la télé à plein volume. Un peu plus loin, il y a une très belle salle, une belle atmosphère de trattoria avec des meubles de famille, des boiseries patinées, des tables nappées de blanc. Avec vous, Alessandra, on se met au fourneau avec le chef Paolo Gori pour préparer un plat en cocotte emblématique de la région mais assez méconnu des Français. C'est le
Peposo.
Iniziamo a preparare un piatto lungo nella cottura, ma semplice nella sua preparazione. Di nuovo in Toscana, pochi ingredienti semplici.
Allora, una ricetta a base di viande, peu d'ingredienti, come nous dit Paolo, dans la recette toscana, ma di très très bonne qualité. Donc, un très beau morceau de viande qui doit faire environ 1,5 kg, 2 kg. C'est un morceau de muscle, donc il faut que ça soit d'une bête de préférence de race canine, bien sûr, parce qu'on est en Toscane, mais dans tous les cas, un bœuf qui est un certain âge, minimum 24 mois, parce qu'il faut une viande avec du goût. Du très bon vin rouge, bien épais, avec bien de tannin, du poivre en grain,
un peu de sel,
de l'ail et de l'huile d'olive.
Alors, c'est un piatto in cui mettiamo tutto a crudo.
Alors, dans une casserole, on met juste un peu d'huile et l'ail et le poivre,
in maniera che il pepe e l'aglio nell'olio,
juste le temps que ça se chauffe, de façon que l'ail et le poivre laissent un peu plus de parfum à l'huile d'olive.
Il a défait une tête d'ail et ensuite il écrase avec la paume de la main les différentes gousses juste pour les éclater un peu, mais il laisse la peau.
Il laisse la peau entière, hein, c'est à l'ail en chemise. Le poivre, il y en a bien 2 grosses cuillères à soupe et je dirais bien 4 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive, hein, toujours généreux.
Appena preso lo sfrigolare,
dès que l'huile commence légèrement à frire, on baisse tout de suite le feu, on lève même la casserole, de façon que l'huile ne soit pas trop chauffée, ne soit pas stressée, et donc les ingrédients relâchent un maximum de saveur.
Et coprite la pentola in maniera che i composti aromatici.
La casserole du feu, on la couvre avec un couvercle, de façon que toutes les composantes aromatiques restent à l'intérieur de la casserole.
Super, c'est marrant ça.
À questo punto, prendete la carne e fatele ad
Il est en train de découper la viande donc en gros morceaux d'environ 4 cm sur 2.
On peut dire que c'est la version toscane de notre bœuf bourguignon.
Ça pourrait être la version toscane du bœuf bourguignon, mais à mon avis, il y a beaucoup moins de sauce.
Allora, prendiamo la carne.
On est en train donc de mettre les morceaux de viande dans la casserole où il y avait déjà précédemment l'huile avec l'ail et le poivre. Donc Paolo vient de recouvrir complètement la viande qu'il est dans la casserole avec un bon vin rouge qu'il a versé lentement pour le laisser un petit peu mousser.
Il pepe in grani da
Et il nous dit que ce qui est très important dans ce plat, qui est le poivre, d'ailleurs qui donne le nom au plat, peposo, ça veut dire à base de poivre.
Il pepe è l'unico ingrediente caro.
Et le poivre, c'était l'ingrédient le plus cher. Donc qu'on laisse un grain, de façon qu'on puisse le mettre de côté, ne pas le manger et pouvoir le réutiliser une autre fois dans un autre plat.
Allora, à questo punto, prendete il vostro peposo, lo coprite. Et lo mettiamo in forno, a un forno
Alors,
non
il faut couvrir avec un couvercle la casserole qui va partir maintenant au four. C'est une cuisson relativement basse avec une température d'environ 140 degrés. Après, ça dépend un petit peu de l'âge de la bête, de la tendreté de la viande, mais il faut au moins le laisser environ 3 heures, voire même 4 heures pour que la viande elle soit bien délayée, bien fondante, mais qu'elle reste toujours juteuse et pas déshydratée.
Bravo. Le peposo préparé par Paolo Gori, le chef de la trattoria d'Abourde, c'était une sensation.
Ah, c'était superbe. Ah oui, vraiment.
Et le peposo, c'est donc ce ragoût de bœuf au vin de Chianti, dont l'élément principal, qui a d'ailleurs donné son nom à la recette,
oui,
est le poivre.
Le poivre, le pepe, qui c'était une épice très chère, et donc on le mettait dans le plat, mais surtout on le mettait un grain entier pour pouvoir surtout le récupérer et le réutiliser dans d'autres recettes.
Donc c'est finalement une recette assez populaire.
C'est une une recette très populaire qui est née exactement pour donner à manger aux ouvriers qui étaient arrivés à Florence, surtout pour faire cuire les tuiles qui servaient pour la coupole de Brunelleschi, du Dôme de Florence. Et donc, il y avait plein de fours pour cuire ces tuiles. Donc, ils utilisaient donc cette terre cuite pour mettre la viande au four, dans le four éteint, le laisser comme ça cuire longtemps et manger ça une fois par jour avec beaucoup de pain.
Ah là là, et le résultat, on l'a dans nos assiettes. Alors là,
quand ça cuit longtemps comme ça,
ça n'a pas été cuit dans des fours pour tuiles Toscane, mais en revanche, ça a été cuit dans une cocotte, j'imagine,
cocotte
assez longtemps.
En terre cuite, oui, mais ça a été cuit 4 heures à 130 degrés.
Alors les amis, qu'est-ce qu'on en pense?
C'est une merveille, non?
Ouais, c'est admirable.
La chair est tendre. On a cette sensation.
C'est poivré. Hein.
Et sans être, sans arracher la bouche.
Sans arracher, non. Bon, j'ai bien respecté les proportions que Paul, le chef, nous a données exactement. Même le vin, j'ai utilisé du Chianti comme lui. Enfin, et je me sens un peu toscane.
Est-ce que ce genre de plat, on peut le servir avec des pappardelles ou des tagliatelles ou...
Attention, les pâtes, c'est pas un accompagnement de la viande.
C'est vrai, mais bon, on est en France.
Mais disons
l'accompagnement, ce serait plutôt des légumes.
L'accompagnement, ça serait des légumes, oui. Mais sinon, une bonne tranche de pain toscan, parce qu'on peut vraiment saucé, hein. Comme vous voyez, il y a tout ce jus de la viande, de l'huile d'olive et du vin. Donc, pourquoi pas bien saucé avec un
et
bon pain, c'est délicieux.
Ce serait admirable, ça, des pommes de terre au four avec ça.
On est d'accord. Ouais. Essayez en tout cas à la maison cette recette de Pepozzo, signée Paolo Gori, une trattoria, la trattoria d'Abourdé, qu'on vous recommande vraiment très chaleureusement.
Absolument.
Pour toutes les spécialités toscanes, populaires, à prix accessible. C'est ça qui est bien, c'est que c'est resté un endroit tout à fait populaire. Et bien justement, il fallait du vin de Chianti. Pour cuire ce Pepozzo, il en faut également dans nos verres.
On va déguster sur France Inter.
Oh, Jérôme Gagnès, vous arrivez même à faire ce bruit avec des bouteilles italiennes.
Mais bien sûr. Je suis très 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 content de parler de vin italien parce que j'aime beaucoup 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 le vin italien. Et je suis d'autant plus content de parler de vin italien que là je vais parler d'un vin que j'ai mis du temps à apprécier.
Ah.
Ouais, le Chianti.
Donc ça vous arrive de changer d'avis?
Bien sûr, il faut pour ça me faire goûter les bonnes choses, cher François-Régis. Donc, là on se trouve évidemment au cœur de la Toscane. J'ai choisi de vous parler un peu plus particulièrement du Chianti parce que c'est le vin le plus connu. D'habitude je vais plutôt dans les chemins de traverse, là une fois n'est pas coutume, je me suis dit que j'allais vous parler de ce qui était le plus connu. Parce que, eh bien, un peu comme toujours dans les vignobles qui sont toujours les plus connus et les plus réputés, ben, c'est pas forcément ceux qui font le plus d'efforts. Et donc, j'avais envie d'aller vous parler d'un vigneron qui, lui, fait des efforts, qui fait un très joli vin, un peu à l'ancienne, assez acidulé, tout à fait conforme à l'idée que je me fais de ce qu'est un vin italien en général. Vous allez me dire, c'est idiot de faire une généralité sur les vins italiens. Ils ont une acidité, il y a une personnalité particulière. Dans ce Chianti, on va retrouver cette fraîcheur, ce côté assez fringant. Il y a du fruit, il y a des tanins qui sont un peu présents, mais assez polissés malgré tout. Il y a une petite rusticité dans ce vin de très bon aloi que j'aime beaucoup. On parle ici d'un domaine qui s'appelle la Fattoria Mainoni Guicciardini.
Absolument, c'est
ça
bien
va,
ça, Jérôme.
L'accent est correct.
C'est ça, c'est
oui,
ça, c'est tout
vrai.
À fait.
Il a fait des efforts.
Parfait.
2017.
On y est presque.
Bon,
en tout cas, c'est la bouteille que vous avez débouchée en début de chronique.
Exactement. Il s'agit là donc d'un vin qui provient d'une ferme tout à fait traditionnelle en Toscane, qui est située pas très loin de San Gimignano, et qui est constitué par une vingtaine d'hectares de vignobles, 100 hectares de champs agricoles, 5 hectares d'oliviers, des bois. Donc on est vraiment dans le registre, et là je parle sous le contrôle évidemment d'Alessandra, mais dans le registre de ce qu'a toujours été depuis très longtemps la viticulture toscane, c'est-à-dire en fait de la polyculture. Il n'y avait pas seulement des vignes, mais aussi, encore une fois, d'autres cultures, parfois aussi de l'élevage. Et donc c'est tout à fait typique. Alors, ce vin, il a une particularité, c'est qu'il est 100%, enfin il n'est pas 100% Sangiovese justement, il y a du Sangiovese parce qu'il doit y en avoir minimum 80%, ça c'est dans les décrets de l'appellation, mais il y a à côté de ce Sangiovese des cépages qu'on trouve presque plus, et notamment du blanc. Et là, c'est là aussi où réside un peu le secret de ce vin. Il y a 10% de Trebbiano, ça c'est le cépage blanc. Et ça apporte en fait le caractère acidulé, ça détend un petit peu les tanins, ça fait un vin très digeste, ça fait un vin assez délicat, malgré une petite rusticité.
Oui, c'est vrai.
C'est un admirable accompagnement du plat de viande d'Alessandra, mm-hmm. parce que...
Vous avez fait l'essai ?
Mais oui, les acidités se répondent. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur un grain de poivre sur lequel je me suis évidemment précipité parce que j'adore le poivre.
Dont la force est atténuée par la cuisson quand même.
Exactement, donc ça embaume l'arôme de poivre sans mm-hmm. avoir le piquant. Et donc, bah voilà, un accord absolument merveilleux avec ce plat parce qu'en plus de ça, le vin, il vient un petit peu... nettoyer le palais par sa fraîcheur. Donc ça fait un très bel accord.
Mm-hmm. C'est un vin que vous connaissiez, Alessandra ?
Absolument. Moi, je ne vous l'ai pas dit avant, mais c'est le vin que j'ai utilisé pour cuisiner le pépose.
Non. Incroyable.
Incroyable.
C'est...
Bah, l'accord,
donc là, c'est vraiment le hasard absolu.
C'est vraiment un devin, Jérôme.
Alors, on est tombé
j'en ai rien dit, mais justement, ouais, c'est
bon,
super.
Donc, on le trouve à 13 euros, grosso modo, entre 13 et 15 euros à Paris.
Ce qui est un prix accessible pour un Chianti.
Ce qui est très accessible. Et vous aurez toutes les informations pour trouver toutes les adresses sur notre site internet avec notamment le numéro de téléphone de l'importateur qui est Planète Vin International qui importe des très jolis vins italiens mais pas seulement. Un petit mot sur l'appellation Chianti. Mm-hmm. Tout à l'heure j'ai dit fiasco, parce qu'en fait on connaît tous cette bouteille qui était dans une espèce d'emballage en paille.
Oui.
On fait les marioles nous en France avec le champagne et le Bordeaux en disant qu'on est les plus connus du monde. La réalité c'est que je pense que dans le monde s'il y a un vin qui est le plus connu, c'est probablement aussi le Chianti.
Mm-hmm.
C'est absolument mondialement connu. Mm-hmm. Et puis après ces malheureux Toscans à Chianti, ils ont eu un petit problème, c'est qu'ils ont commencé à prendre exemple sur les Bordelais au plus mauvais moment et donc ils ont commencé eux aussi dans les années 80, fin des années 70, début des années 80 à faire des vins de menuisier. Alors ça c'est très ennuyeux parce que ça c'était une grande spécialité bordelaise dans les années 80, ça consistait à mettre beaucoup de bois, on cherchait du vin mais il n'y en avait quasiment pas et donc les vins sentaient que le bois. Bah, les Italiens se sont mis un peu à faire ça, notamment en Toscane avec ce qu'on appelle les super Toscans. Alors je ne peux que vous recommander de rester bien à l'écart de ces vins-là, d'abord parce qu'ils sont horriblement chers et deuxièmement parce que, encore une fois, c'est vraiment des vins réservés aux amateurs de bois, donc ébénistes et autres menuisiers, et de se concentrer justement sur des vins comme ça, sur cette Toscane traditionnelle, qui vous apportera beaucoup de satisfaction dans la complexité, dans une certaine finesse et dans une très grande fraîcheur et des vins parfaitement digestes, que l'on peut boire avec une large soif.
Rappelez-nous le nom de ce domaine que vous encouragez.
Le domaine s'appelle Fattoria Mainoni Guicciardini de Chianti 2017.
Merci Jérôme Gagnez. Nous avons montré jusqu'à maintenant que le régime alimentaire toscan était quand même assez carné. Alors on parlera aussi dans la seconde partie de cette émission d'un mythe toscan qui est la fameuse bistecca alla fiorentina. Il y a par ailleurs une viande qui est très emblématique également dans la région, c'est le sanglier, parce qu'il y a beaucoup de forêts. Il y a beaucoup de campagnes. Et le sanglier, on en fait des civets, ragoûts.
Oui, surtout des civets, des ragoûts aussi pour assaisonner les pâtes, dont les pappardelles ou les stracci, qui sont les formats de pâtes typiques de Toscane. Et le civet aussi. Et c'est curieux, dans le civet, en Toscane, on met des olives noires et de la noix de muscade. Avec ça, on le reconnaît vraiment, le Toscan, par ses olives en fin de cuisson.
Le cochon est également, cousin du sanglier, est également un animal culte de Toscane, avec notamment une razza traditionnelle.
Surtout le maiale di cinta senese, mm-hmm. qui est vraiment un cochon noir, qui a autour de la taille, donc la cinta, la ceinture, une grosse bande blanche, donc il est même rigolo,
il est reconnaissable
joli à voir.
De loin.
Oui, tout à fait, c'est une race très très ancienne. Autochtone d'ailleurs, avec lequel on fait vraiment de la charcuterie assez exceptionnelle. Donc l'ardo di colonnata aussi, et non seulement avec ce cochon, mais surtout le saucisson, comme nous avons sous les yeux, qui s'appelle salame di cinta senese, et la finocchiona.
Ah, finocchiona, ça vient de finocchio, qui veut dire fenouil.
Fenouil, tout à fait. Dans la finocchiona avec de cinta senese, qui est une appellation d'origine géographique protégée, et qui est juste là, sous les yeux, bien sûr.
Génial.
On ne pouvait pas s'en passer. Ça, c'est une vraie particularité parce qu'il y a beaucoup de fenouil, même si on peut l'utiliser aussi dans d'autres régions en Italie, en Toscane, c'est vraiment emblématique. On peut avoir des saucissons avec un petit diamètre comme celui que Jérôme est en train de découper, mais ça peut avoir aussi une taille beaucoup plus importante, comme l'autre qui est déjà tranché très finement à la machine, avec des gros morceaux de poivre également.
Jérôme, vous m'en mettrez 3 tranches, s'il vous plaît ?
Alors, Jérôme,
oui, c'est fait.
Finocchiona. À la finocchiona. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme, vous qui venez de la découper ?
Eh ben, c'est très fin.
Et il y a des notes anisées, hein ?
Oui, mais elles sont très subtiles, justement. Mm-hmm. Il m'est arrivé d'en manger qui n'étaient pas très subtiles.
Mm-hmm.
La taille est super. la taille de la viande, la
bien sûr, la charge qu'il y a, le mélange aussi, un petit peu de gras, il en faut hein, dans le saucisson. Et ça, d'ailleurs, le gras qui prend vraiment le parfum du fenouil, du finocchio sauvage.
Ça, évidemment, ça appelle le blanc, hein, ça appelle une petite vernaccia di San Gimignano, qui est un vignoble situé sur le flanc ouest
et toujours
des Chianti, toujours en Toscane, c'est admirable ça.
Vous avez le droit de partager ce saucisson aussi. Hein. Quelques tranches, Jérôme Gagnaise. Alors évidemment, on a dit, hein, des protéines carnées, mais la cuisine Toscane arrive aussi à s'affranchir brillamment de la viande et nos amis auditeurs amateurs de cuisine végétale vont être contents et ils vont être servis, notamment avec zuppe e minestre, donc c'est vraiment les soupes et les potages, et ça en général c'est tout un chapitre des cartes de restaurants en Toscane, et là on y trouve effectivement des potages en général assez consistants, à base de pois chiches,
légumes secs, haricots surtout,
fagioli,
c'est ça, fagioli de toutes sortes, dont le fagiolo zolfino typiquement toscan, mais aussi d'autres comme les cannellini ou les borlotti, mais aussi on trouve les pappa al pomodoro à base de tomates. Ça, c'est un peu plus en été. Donc, c'est une soupe qu'on peut aussi manger froide. La pappa al pomodoro, c'est une soupe faite à partir donc de l'eau dans laquelle on fait bouillir des tomates, surtout de l'huile d'olive, de l'oignon parfumé au basilic. C'est une soupe assez dense dans laquelle on met du pain toscan.
Oui, car le pain est important.
Le pain pour les Toscans, c'est un peu le risotto des Milanais, un peu la pizza des Napolitains ou la pâte des Romains. C'est vraiment la base de tout. On le mange tel que, et très important, le pain n'est pas salé, jamais. Ça s'appelle pane scialbo ou pane sciocco.
D'ailleurs, honnêtement, peut-être que Elvira, qui connaît la Toscane, ne me contredira pas, je l'espère. Mais en tout cas, souvent, des visiteurs reviennent de Toscane en se plaignant du pain.
Donc le pain n'était pas bon. Moi, j'ai souvent pensé qu'il est dur au bout d'un jour, qu'il est pas salé. Il sèche très vite et il n'est pas salé.
Ça ne se mange pas tout seul.
Parce que c'est un ingrédient, le pain.
Tout à fait.
C'est nous, c'est pas comme notre baguette.
On mange trop à la française quand on est en vacances en Toscane.
Alors que c'est vraiment un ingrédient qu'on met dans la cuisine, qu'on fait toaster, qu'on recycle très très souvent, soit en miettes pour faire aussi des sauces pour les pâtes, avec les pici notamment, qui sont ces spaghettis longs, assez épais, souvent roulés à la main, assez rustiques. On fait une sauce qui s'appelle alle briciole. C'est aux miettes de pain grossières qu'on mélange juste avec de l'huile d'olive, du persil et de l'ail.
Et l'été, on peut faire une très bonne panzanelle avec.
Ah, panzanelle, oui, j'allais en parler. De quoi s'agit-il, Elvira?
C'est une salade de pain rassis avec des tomates et différents légumes de crudité, de l'huile d'olive. Assez acide comme ça, assez vinaigré.
Mais le secret, c'est que ce pain rassis, justement, s'imbibe du jus des tomates, s'imbibe de l'huile d'olive et ça donne un truc absolument extraordinaire. Rappelons aussi que un des seuls plats toscans que les Français connaissent, mais ils ne savent pas forcément que c'est toscan, c'est la bruschetta.
À base de pain. C'est à base de pain, c'est un peu la conséquence de celle qui appelle en Toscane la fettunta, l'ancienne bruschetta. D'abord, c'est un pain récupéré, grillé, badigeonné d'huile, souvent peut-être un petit peu de fleur de sel dessus, et on mangeait ça en entrée ou en encart, juste comme ça, pour faire un petit goûter. Ensuite, cette fettunta s'est enrichie de tomates, d'autres ingrédients, d'olives, de capres, pourquoi pas de légumes à feuilles que les Toscans adorent, surtout en période d'hiver. Et donc, c'est devenu la fameuse bruschetta.
Un autre mot-clé qu'on voit beaucoup dans les établissements populaires de toute la Toscane, c'est ribollita. Définition, Alessandra.
Ribollita, c'est une soupe frémie de foie, dans laquelle, dans la première partie, on prépare une soupe à base d'haricots, légumes secs, le chou, le cavolo nero.
Et le fameux, qui est très très présent dans les bistrots en France.
En France aussi.
C'est un chou un peu particulier, à feuilles allongées.
Qui ressemble un peu au kale, mais un peu moins frisé, mais avec des reflets un peu bleutés. Et donc, on mélange ça avec des pommes de terre, des carottes, de l'oignon, de l'huile d'olive, de l'eau. On fait cuire une première fois. Ensuite, on tapisse le fond d'une cocotte en fonte de préférence avec des bonnes tranches de pain toscan. On verse la soupe donc bien chaude et on fait frémir une deuxième fois de façon que le pain s'imbibe et commence à donner une consistance bien dense et savoureuse à cette soupe et on mange à ce moment-là. Donc c'est cuit deux fois, donc riz bollito.
Et extrêmement consistante, plat complet, magnifique, on aime beaucoup. Et enfin, pour montrer que la cuisine toscane est bien une cucina povera, citons ce sandwich, on pourrait dire aujourd'hui street food, cibo di strada. C'est vraiment quelque chose qu'on mange dans les rues de Florence et même les jeunes sont accrochés comme ça au kiosque pour avoir leur part de...
Lampredotto.
Lampredotto. N'allez pas à Florence sans manger un lampredotto pour 2 ou 3 euros.
Ce sont des tripes cuisinées très longtemps. C'est une partie de l'estomac d'un bovin qui est la partie de la caillette. Ça s'appelle lampredotto parce que les lampreda, c'était les anguilles qu'on pêchait à l'époque. Maintenant, il n'y en a plus malheureusement dans l'Arno, qui est le fleuve qui traverse Florence. Et ça ressemblait un petit peu à ça, un petit peu foncé. Et donc, c'est nettoyé, cuit très longtemps dans un bouillon de l'eau, des tomates, de l'oignon, du poivre, du sel. Ça mijote très longtemps. On met ça dans le pain, dans
un pain coupé en rond,
coupé en deux. Le dessus du pain, on l'aura trempé dans ce bouillon. On aura rajouté, surtout là, les Florentins, ils font ça, de la sauce verte.
La salsa verde.
Salsa verde. Et aussi de la salsa rossa, qui est un tout petit peu pimentée. Et quand on a comme ça la totale, on se régale.
Et c'est un sandwich à la tripe pour les gens qui n'aiment pas les abats. Oui. Parce que je peux vous dire que c'est pas du tout fort. C'est un bisou.
Fin,
c'est un
câlin.
C'est magnifique, ça.
C'est un câlin. Le lampredotto. Lampredotti au pluriel.
Oui, et lampredottari, ce sont ceux qui vendent le lampredotto.
Une très bonne adresse d'ailleurs, peut-être bien le meilleur de Florence. On vous a mis toutes les infos si vous avez éventuellement prévu un voyage dans la région dans les prochains mois ou les prochaines années. Dans un instant, on va précisément évoquer avec Elvira une céréale très présente en Toscane, mais également ailleurs. On va parler de la bistecca à la fiorentina. On va aussi parler un peu de cuisine de la mer. Oui, car la géographie toscane est très intéressante.
Me mente, ma muse et me hante. Elle est toujours elle-même, c'est bien pour ça que je l'aime.
Sur le plateau dont on va déguster, ça va les amis? Super chérie, à ne pas confondre avec Super chérie, hein, c'est le nouveau titre de M. On est bien sur le plateau dont on va déguster en compagnie d'Alessandra Pierini pour un voyage extraordinaire dans les marmites de Toscane. Et pour comprendre la cucina toscana, encore faut-il jeter un œil sur une carte d'Italie et essayer d'entrevoir un peu la géographie de cette région d'Italie, la Toscane.
Alors la Toscane, c'est un grand triangle, une grande région qui est touchée par tout le côté ouest, par la mer tyrénienne.
Et oui, il y a bien la mer.
Et il y a la mer.
Et on va le comprendre assez vite.
C'est la rivière qu'on appelle la Versilia mm-hmm. et qui descend presque jusqu'au Latium. Ensuite, tout au nord, nous avons déjà, elle touche cinq autres régions, dont la Ligurie, l'Émilie-Romagne, les Marches, l'Ombrie et au sud, le Latium.
Oui.
Toute la région du nord, il y a les montagnes, il y a les Alpes Apuanes, sous lesquelles il y a trois régions, la Lunigiana, la Garfagnana et le Mugello. Ce sont les régions forestières dans mm-hmm. lesquelles on trouve surtout des forêts, surtout de châtaigniers. La mm-hmm. châtaigne est très importante en Toscane, on verra pourquoi.
Vous allez nous le montrer au moment du dessert.
Et ensuite, nous avons donc une grande région un petit peu plus sauvage qui est la Maremma, qui se trouve dans le sud de la Toscane.
Et oui, la Toscane maritime.
Toscane maritime, qui déborde un peu sur le Latium aussi. Nous avons des îles fantastiques, surtout deux promontoires qui sont toujours dans le sud. Promontoires sur lesquels on peut se baigner, mais aussi une faune, une flore et des oiseaux migrateurs superbes. Il y a même dans l'île d'Elbe des sangliers.
Incroyable. Donc c'est une fabuleuse région où se rencontre effectivement le climat méditerranéen avec l'huile d'olive, on va en parler dans un instant, l'ail, la tomate, car il y a beaucoup de tomates aussi dans la cuisine toscane. Et en même temps, c'est une cuisine tournée vers la charcuterie, les produits laitiers, vers les produits de la forêt, il y a du relief. Et tout cela fait effectivement une variété exceptionnelle de produits à disposition.
Tout à fait. C'est une des cuisines les plus variées d'Italie. On peut vraiment se régaler. C'est vraiment une très forte proximité entre le bord de mer, la colline et la montagne.
Voilà.
C'est assez exceptionnel.
Vous disiez colline. On a fait précisément un petit voyage dans les reliefs toscans. Nous sommes allés nous attabler chez un cuisinier franco-italien amoureux de la Toscane. Il y vit 6 mois dans l'année. C'est Alain Cirelli. Ça vous dit quelque chose, selon, évidemment,
ah oui,
Alessandra.
Très bien.
Alain Cirelli nous mitonne un mariage d'amour entre la terre et la mer.
Gamberi con lardo di colonnata, cavolo saltato in padella e cacchi in agrodolce.
Et pour ces crevettes au lardo colonnata, chou sauté à la poêle et kaki en aigre doux, direction les collines de Pietrasanta. C'est un charmant village de la province de Lucques, au nord de la Toscane, à quelques kilomètres seulement de la mer, et c'est là où habite le cuisinier Alain Cirelli.
Ici, on est donc à Pietrasanta, sur la colline de Capezzano Monte, à 380 mètres d'altitude. Et on a la chance d'avoir la Méditerranée à 2 km, la montagne à 500 mètres. Donc les châtaigniers d'un côté, les oliviers, les cyprès de l'autre. Alors, dans un premier temps, je suis allé ce matin à Forte dei Marmi acheter les gamberi qui étaient vivantes. Je les ai juste ébouillantées. Et maintenant, on va les décortiquer en essayant de préserver la gambasse. Et maintenant, je vais tailler le lard de colonnata. Donc, colonnata est à 25 km. C'est un lard qui est fait dans des boîtes de marbre recouvertes de sel. Voilà, on a une fine tranche. On sent vraiment la cristallisation du sel. Il y a une résistance et en même temps, on est quand même dans du gras, mais du bon gras. Et maintenant, on entoure la queue de la gambasse avec cette fine tranche.
On l'emmaillote, en fait.
On l'emmaillote, on lui donne une petite robe de soirée. Voilà. Elles sont parées à sortir dans la poêle qu'on va allumer.
Des crevettes, il en faut pour une entrée à peu près combien par personne ?
Trois par personne, si c'est une entrée. Une cuisson assez rapide afin de garder le lard visible sur la gambasse, sinon il va fondre très rapidement. Et donc une poêle assez chaude, très peu d'huile parce que le lard globalement suffit à lui.
Là c'est une affaire de quelques secondes.
C'est une petite minute, hein. 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Quand on a une fraîcheur comme là, c'est vraiment pas la peine de surcuire. En parallèle à ça, j'ai donc blanchi un chou vert, des feuilles de chou qui ont été cultivées sur le jardin là à côté. Voilà. Donc les feuilles de chou rissolent bien comme il faut. Il faut pas trop les remuer histoire de les colorer juste d'un côté, qu'elles aient des petites nervures brunes. Mm-hmm. Ça donne un chou un peu craquant, très parfumé. Et ça amène avec le lard quelque chose de très agréable en bouche. Voilà, donc là notre gambasse, elle est cuite. Et puis en parallèle, les kakis. On fait dans une casserole un volume d'eau, un demi de vinaigre de cidre bio de préférence, de l'huile d'olive, un petit peu de miel. Je fais bouillir cette préparation, je jette mes tranches de kaki dedans, 10-15 secondes, et on les laisse 4-5 jours, et ils sont prêts à la consommation au bout de ce temps-là. Si le kaki est âpre, il faut bien les laisser une trentaine de jours à mariner dans le vinaigre, et ils vont perdre leur âpreté.
Alors on dresse l'assiette.
On dresse une assiette.
Donc le chou au centre, comme un petit dôme.
Les gambas qui reposent sur ce chou, la tête en l'air. Et puis notre kaki, là les tranches sont un peu trop grosses, donc je la coupe juste en deux.
Et on les plie en deux.
Et on les plie en deux et ça donne du volume à l'assiette.
Magnifique.
Voilà, on peut mettre quelques perles de vinaigre balsamique. Et sur ces perles, on rajoute une petite perle d'huile d'olive, ce qui va faire une décoration toute simple et parfaite. Et c'est prêt à déguster. Donc voilà, c'était les gamberi con lardo di colonnata, cavolo saltate et cacchi in agrodolce.
Des crevettes toscanes emmaillotées de lardo colonnata, vous imaginez?
Oui, on imagine très bien.
On peut faire ça d'ailleurs
bien,
avec un très bon lard fermier. Hein.
Oui,
bon,
oui, absolument.
On sait que lardo colonnata a quand même un certain coût.
Oui,
et
oui.
On peut faire ça avec un très bon lard qui a bien, qui est bien affiné.
Surtout coupé très très fin.
C'est ça. Et du chou sauté à la poêle, des kakis en aigre doux. Magnifique.
Ça, c'était vraiment délicieux. Hein. Quel souvenir.
Splendide.
Très bon plat. Oui, buonissimo.
Pour ceux qui veulent s'y essayer à ces crevettes au lard de colonnata, la recette est sur franceinter.fr à la page On va déguster. Alain Cirelli réalisait cette recette avec sa propre huile d'olive, qui est d'ailleurs excellente. Vous l'avez goûtée ou pas?
Excellente. Elle a ce vert presque fluorescent. Elle est très ardente, très
à la couleur impressionnante,
avec une finale poivrée. C'est vraiment pour les amateurs quand même d'huile d'olive très verte, très
bien présente, oui. Mais c'est un IGP toscan, ça veut tout dire, hein.
Ça
représente
dire.
Bien le terroir toscan. Là, nous avons dans l'huile qui s'appelle Paradis, donc.
Hein, un nom bien nommé. Et quand on voit son olivret qui vraiment est accroché à la colline à 300 mètres d'altitude,
tout est
vraiment au paradis. L'huile d'olive toscane est emblématique et elle a vraiment ce qu'on peut appeler sa typicité. Avec ses variétés d'olives et son profil aromatique.
Ben, disons que dans toute l'Italie, il y a 650 variétés d'olives répertoriées. Et que en Toscane, il y en a 119. Donc, on peut s'imaginer la variété de tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut trouver aussi dans les assemblages d'huile d'olive. Et notamment, il y en a 3-4 qui sont vraiment typiques, qui font vraiment le profil de l'huile d'olive toscane. Ce sont les variétés de Moraiolo, Frantoio, Leccino et Pendolino.
Ça, là, ce sont vraiment un peu les cépages,
un peu les cépages, c'est ça. Et notamment le Frantoio, c'est la variété d'olive qu'on peut trouver aussi en monovariétal aussi, et les autres surtout en assemblage. Et donc ça a ce caractère assez fruité, moyen, intense.
Presque ardent, hein.
Ardent,
il y a des notes piquantes
qui
grattent la gorge.
Du piquant.
Il y a un côté pomme verte, pardon,
les arômes gagnaises.
Extraordinaire.
C'est ça, mais d'ailleurs, on trouve exactement, on dit là, le goût du pépin de pomme et aussi de l'amande, du fruit sec. Ça rappelle un peu les huiles de Ligurie qui ne sont pas loin.
Et ça, c'est notamment lié, évidemment, non seulement à l'assemblage de différentes variétés d'olives, Frantoio plutôt pour la structure, Moraiolo plutôt pour l'amertume, etc. Mais c'est aussi lié au stade de maturité de récolte des olives.
Au moment où elles sont
assez précoces.
Absolument. On a tendance à les récolter de plus en plus vertes. D'ailleurs, pour avoir plus de polyphénol, une huile d'olive qui est plus forte, un peu plus ardente, une huile d'olive qui se gardera mieux aussi dans le temps. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'on préfère l'huile d'olive en Toscane.
Toscane, région bénie des dieux et terre d'huile d'olive. Toscane, c'est également la région d'un fleuron de la Cucina Toscana. Je vous propose, Alessandra, de retourner à Florence pour goûter une pièce de bœuf un peu particulière. Vous voyez de quoi il s'agit, ce morceau d'anthologie?
Oui, j'imagine, c'est la bistecca fiorentina.
Oui, alors déjà, bistecca fiorentina, avant d'aller dans un endroit où on la mange et on la déguste de façon remarquable, c'est d'abord une découpe en fait. C'est une découpe et une race de viande, la bistecca à la fiorentina.
À la fiorentina. Bon, l'idéal, c'est vraiment utiliser la race de viande chianina ou à la limite maremmana, qui sont les races de viande locales, qui sont très intéressantes dans les cuissons sur la braise. Mais surtout, c'est une découpe. C'est un morceau qui est situé dans le milieu du dos de la bête. C'est la côte de bœuf, si on peut dire, mais en France, on ne découpe pas la bête de la même façon.
Oui.
Donc, c'est qu'en Italie, on se retrouve avec, en fait, deux morceaux en un seul. C'est la vertèbre qui est découpée en forme de T. D'un côté, nous avons le filet.
C'est le T-bone.
C'est le T-bone.
C'est l'équivalent du T-bone américain.
T-bone américain, où vous avez le filet d'un côté, le faux filet de l'autre. Donc, ce sont quand même les deux meilleures pièces en une seule.
On la déguste, cette bistecca à la fiorentina?
Ah oui, ça, j'adore ça, c'est très bien.
Je vous propose d'aller découvrir une nouvelle adresse de Florence, en plein centre historique. On est à deux pas du Duomo, c'est une ancienne librairie antiquaire transformée un peu en steakhouse à l'italienne, avec un patron haut en couleur, Matteo Perduca. Il nous entraîne en cuisine pour percer le mystère de cette bistecca alla fiorentina.
Allora adesso se volete andiamo in cucina così vediamo come nasce e muore diciamo questa nostra bistecca.
Ok, andiamo.
La bistecca alla fiorentina è un pezzo di carne della lombata.
La bistecca alla fiorentina è un morso di viande, di longe, che deve essere coupé in tranche au moins de 4-5 cm.
E viene cotto sulla brace ardente.
Che deve essere cuit sur du feu vif.
E servito al sangue.
Elle doit être servie. Et rouge, viande rouge.
Ah là, là, on est dans la chambre froide, il va choisir une pièce. Donc là, on a un train de côte à la couleur de la viande. On sent qu'il y a une maturation assez importante, non?
È molto importante. Ora ancora di più, diciamo, il livello
oui,
di
en effet, c'est très important pour la qualité de la bistecca, le dry age o la maturation de la viande, ça parce que ça aide à la viande de perdre un peu de liquide, donc de concentrer les jus, les saveurs. Mais l'autre élément très important, c'est les marques, combien de gras il y a dedans.
Et là, on voit que la couleur rouge est bien vermillon et qu'elle est persillée en fait, hein, elle est marbrée, persillée.
Notre chef a bien coupé au début avec un couteau la première partie de la longe et après il a scié pour arriver jusqu'à presque au bout. Après, avec un très gros et lourd couteau, il a donné le dernier coup.
Portiamo sempre in tavola almeno tre tagli diversi della carne.
On lui présente toutes les fois trois différentes coupes avec les prix et les poids. Donc le client sait exactement ce qu'il va manger.
Mettiamo un po' di olio, si massaggia.
Avant tout, on met juste un tout petit peu d'huile extra vierge d'olive et on fait un massage très doux sur la viande.
Et questa è la musica che
sentite. Ça c'est la musique de la bistecca qui est en train de jouer sa mélodie.
On a faim.
La viande n'arrive jamais coupée à la table.
Questa è una bistecca di costa. Ora io l'andrò a tagliare.
Et doit être coupée en face du client à la table.
Dopodiché ci metteremo del sale aromatico prodotto da noi.
E après saisonné au final avec de l'huile d'olive
et del pepe
du sel aromatisé aux herbes aromatiques méditerranéennes.
Grazie. La bistecca alla fiorentina dans un nouveau restaurant toscan.
Via Ricasoli 6, qui est vraiment dans le centre-ville de Florence.
Et ça s'appelle
jolie adresse, Regina Bistecca.
Voilà, la Regina Bistecca.
On va déguster. Sur France Inter.
Ça sent bon, Elvira, que se passe-t-il?
J'ai cuisiné pour vous.
Incroyable.
Délicieuse.
Savez-vous quelle est la céréale la plus cultivée au monde après le maïs, le riz et le blé?
Moi, j'ai ma petite idée, mais je me tais.
Allez-y. Jérôme?
L'orge.
Ben, bien vu.
Oh, le tricheur.
Je l'ai forcé à goûter.
Il regarde sur les fiches d'Elvira. Non, mais je rêve.
Il s'agit en effet de l'orge. Alors, c'est surprenant, tant c'est une céréale à laquelle on pense peu. Je sais
c'est
pas
vrai.
Vous. Enfin, Jérôme, je connais la réponse.
Moi, j'y pense peu, c'est vrai.
Et en italien, d'ailleurs, Alessandra?
Orzo.
Orzo. Orzo.
J'en mange encore moins souvent que de l'épeautre, c'est vous dire. Donc, on y pense peu, sauf dans l'industrie brassicole.
Oui.
La France est le premier producteur d'orge brassicole de l'Union européenne.
Ah bon?
La France est le premier exportateur mondial de malt. 15% des bières brassées dans le monde le sont à partir d'orge de brasserie et de malt français.
Ça alors.
C'est dingue, hein. Le problème, c'est qu'évidemment, cette orge destinée à la bière de masse est particulièrement gourmande en pesticides. Mais ça, c'est un autre sujet.
Pourquoi si c'est un sujet important.
Ouais. Pourquoi est-ce que je vous parle d'orge en plein épisode toscan? Parce qu'on entend parfois que l'orge est la première céréale à avoir été cultivée de manière vraiment structurée, avant même le blé, et que c'était un aliment de base pour les peuples du Proche-Orient et pour la Grèce antique. L'orge étant l'ingrédient principal de la maza, M-A-Z-A, le plat de base, qui était servi sous forme de bouillie, de galette, un plat spartiate, un plat pas raffiné du tout, au point que les Romains affublaient les Grecs du surnom de mangeurs d'orge.
Ah.
Les Romains se moquaient peut-être, mais il y a une civilisation qui a prospéré entre grosso modo moins 800 et moins 400 en Italie.
Les Étrusques.
Voilà.
Et voilà, les Étrusques qui précèdent les Romains.
Qui
hein.
précèdent les Romains et se fondent après dans les Romains. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de choses en Toscane, beaucoup de bien d'ailleurs. Ils
et
sont
ben
quand
voilà.
même restés quelques siècles.
Et c'était une civilisation d'un raffinement et d'une modernité à tous égards, notamment du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes, d'ailleurs.
Absolument.
Mais ce n'était pas vraiment des guerriers, justement.
C'était pas vraiment des guerriers, qui étaient d'ailleurs méprisés après par les Romains. Oui. Cette civilisation qui a laissé des traces profondes en nos jours encore en Toscane, ce que vous disiez, Alessandra, et notamment en termes culinaires, alors on ne va pas redire gibier, sanglier, grand amateur de sanglier, ragoût de poisson, des vins, et tiens, une soupe d'orge que l'on continue, je crois, à pratiquer dans les campagnes toscanes avec lentilles, pois chiches et fèves. Vous l'avez goûté, cette soupe étrusque?
Oui, absolument. La soupe étrusque.
C'est la fête des légumineuses
Soupe. Et étonnamment, alors qu'on trouve l'orge si peu dans nos assiettes hexagonales, il est encore aujourd'hui très présent un peu partout dans le monde. Alors, dans des préparations anglo-saxonnes à base de barley, il y a même un truc que j'adore en Angleterre qui s'appelle la barley water. Alors, c'est une espèce de soda qui est fait à partir d'eau d'orge et de citron qu'on boit l'été, une espèce de limonade. Beaucoup de barley soup aux États-Unis, dans les États producteurs de céréales.
Oui.
En Allemagne, on pratique la Graupensuppe, une soupe à l'orge et au bacon, qui devrait plaire à Jérôme. Évidemment, en Afrique du Nord, on fait de la semoule d'orge, des couscous d'orge, des soupes d'orge, notamment la chicha marocaine. Alors moi, j'ai voulu un peu boucler la boucle, comme je vous parlais de la Grèce au début, de la fameuse maza, parce qu'il y a une recette que j'adore en Grèce, qui n'a rien à voir avec l'orge, mais bon, je l'ai trafiquée, tant pis, j'assume. C'est l'avgolemono.
L'avgolemono. Spécialiste du bricolage culinaire. Mais en général, ça marche.
Général, là, mais c'est une émission sur la Toscane, donc c'était vrai que c'était indispensable de faire une soupe grecque.
Mais je vous ai parlé des étrusques ou pas?
C'est vrai.
Compte tenu de l'effet que me fait cette soupe, non, franchement, c'est remarquable. Vous pouvez y aller.
C'est un avgolemono.
Continuez à faire vos pots de fusion.
Bah, je suis ravie de votre validation. L'avgolemono, c'est une fameuse soupe grecque.
Avec de l'œuf.
Dont la base est un mélange d'œufs et de citron. Parfois, les blancs d'œufs sont battus en neige et mélangés ensuite au jaune d'œuf. On peut également le faire, ça se fait dans les familles. On bat l'œuf entier avec du jus de citron, des zestes de citron. On chauffe jusqu'à épaississement. On fait cuire du riz dans un bouillon de poule. En vrai, autrefois, on avait une vieille poule qui traînait dans la basse-cour. On la mettait à cuire façon poule au pot et c'est ainsi qu'on faisait cette recette. Moi, évidemment, j'ai pris du bouillon de poule bio, certes, mais j'ai pris un bouillon de poule. Et j'ai remplacé tout simplement le riz par l'orge. De l'orge perlée, parce que c'est tout ce que j'ai trouvé en bio. L'orge perlée étant moins riche en nutriments, parce que plus raffinée et encore plus mondée que l'orge appelée mondée. Donc le principe, c'est du bouillon de volaille, un œuf, des œufs battus, du citron, on mélange, on fait cuire l'orge à part dans un bouillon, on rassemble le tout.
C'est délicieux.
Ça épaissit quelques minutes. Attention, faut pas que ça se transforme en omelette. Et on accommode ça d'un peu de persil haché. C'est hyper citronné. Et pardon, il y a effectivement un peu de chair de poulet qui a cuit dans le bouillon également. Et on l'effiloche.
C'est vrai que vous l'effilochez. Vous effilochez ça dans cette soupe.
Bon, c'est
comment vous la baptisez?
Avgolemono, mais avgolemono parce que c'est œuf et citron à l'orge. On va dire que c'est les étrusques qui m'ont inspiré cette recette qui n'a rien à voir avec la Toscane.
Ce que j'aime beaucoup, c'est la texture de l'orge sous la dent. Contrairement au riz qui a tendance à pas s'évanouir, là, l'orge y rebondit légèrement.
C'est très présent. Il est rebondissant et élastique.
Un peu comme le petit épeautre.
Oui, c'est ça.
C'est vraiment bien. Et il y a l'acidité, la fraîcheur du citron.
Acide,
et en même temps, il y a la rondeur, le côté assez caressant apporté par l'œuf. Franchement.
Que les Grecs et les étrusques me pardonnent.
La recette est en ligne sur monster.fr. À la page, on va déguster. C'est une excellente nouvelle pour terminer notre voyage toscan. On ne peut pas se priver d'un petit dessert.
Oggi vi farò vedere come si fa il castagnaccio, un dolce semplice dell'autunno toscano.
Le castagnaccio, on entendait à nouveau, Alessandra, la voix de Paolo Gori, le chef qu'on avait connu au début de l'émission, de la Trattoria da Bourdea, Florence, et il fait ce castagnaccio, on lui a estorqué la recette de castagnaccio.
On l'a fait sous nos yeux, oui.
Pas de famille toscane sans castagnaccio.
Ah non, ça n'existe pas.
On a compris dans la prononciation qu'il est question de châtaigne.
De castagne, tout à fait, de châtaigne. Et la Toscane est riche en châtaigne, donc en farine de châtaigne, surtout dans le nord et en Maremme dans le sud. Et on utilise la farine de châtaigne, surtout dans le temps, on l'utilisait pour remplacer le froment, que lui, par contre, il était très cher. Donc au départ, c'était un mélange juste de farine de châtaigne, de l'eau, ça remplaçait le pain. C'est juste un peu plus tard qu'il est devenu un peu plus riche, et on y met dedans, même si c'est un dessert, surtout pas de sucre. Parce que la farine de châtaigne apporte normalement, si elle est de bonne qualité, il faut qu'elle soit bien douce.
Oui.
Donc c'est délicieux.
Attendez, farine de châtaigne, huile d'olive, pignon, romarin, point barre, rien d'autre, pas de sucre. C'est un dessert très rustique.
Un peu d'huile d'olive.
Et très facile à faire.
Très très facile à faire. Il faut vraiment là aussi qu'il y ait des bons ingrédients et après le tour est joué.
Comment on s'y prend?
Donc c'est tout simplement de la farine de châtaigne mélangée à l'eau, dans les mêmes proportions. Nous avons la recette donc sur le site. Et on mélange bien cet appareil. Il faut que la crème elle ait une consistance un petit peu comme de la pâte à crêpes.
C'est ça.
On verse dans un plat qu'on aura bien préalablement huilé avec de la très bonne huile d'olive. L'appareil, il ne faut pas qu'il dépasse les 2 cm d'épaisseur. Sur la surface, avant d'enfourner, il faut mettre des aiguilles de romarin, bien de pignon, environ 50 g pour 500 g de farine, une bonne poignée de raisins secs. Il y a quelques familles qui mettent aussi des noix un petit peu concassées. Un bon trait d'huile d'olive. On met dans le four à très chaud, à 220 degrés. On laisse cuire 30 minutes. On sort et ça donne ça.
Et ça donne un gâteau assez compact. Il n'y a pas de levure non plus.
Une texture comme un appareil avec clafoutis.
C'est oui,
clafoutis. C'est le fard toscan.
Voilà, c'est un peu le fard toscan. Ce qui est très émouvant, en fait, c'est la symbolique de ce plat extrêmement paysan. C'est que c'est un hommage au paysage toscan et notamment à ses arbres, puisqu'on a la châtaigne du châtaignier, l'olive de l'olivier, le pignon de pin du pin, le romarin qui est aussi un arbre.
C'est ça, oui. Dans le maquis toscan, on le retrouve. Et dans les raisins secs, on a la vigne. Et si on met des noix, il y a le noyer qu'on retrouve un peu partout. Donc, c'est vraiment un symbole de la géographie toscane dans un plat.
Le castagnaccio, un dessert vraiment très facile à faire à la maison, à condition d'avoir une bonne farine de châtaigne. Et on va la prendre d'Ardèche, on va prendre de Corse.
Bien sûr.
Une farine de châtaigne bio de préférence à se procurer dans les bonnes épiceries. Voilà, on arrive à la fin de ce voyage en Toscane. Il n'était pas exhaustif, mais on a survolé un grand nombre de spécialités, de produits, de traditions culinaires. Merci beaucoup. Alessandra Pierini.
Merci à vous tous.
On vous retrouve chez RAP à Paris notamment et on vous retrouvera sans doute pour d'autres voyages en Italie.
Avec plaisir.
Merci beaucoup à mes chroniqueurs.
Merci à tous.
À bientôt.
Et puis un immense merci aussi à vous, chers auditeurs. Selon le dernier sondage de Médiamétrie, On va déguster gagne 250 000 auditeurs en un an, ce qui fait de France Inter la première radio écoutée le dimanche à 11h. Voilà, on est très contents. La semaine prochaine, une émission entièrement consacrée à une boisson bon marché, bien de saison, à condition qu'elle soit artisanale, c'est le cidre, avec devinez qui, quelqu'un qui connaît très bien le cidre en France.
Dominique H. du Cotentin.
C'est ça, Dominique Hutin, notre chroniqueur vin, et accessoirement, cidre. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.